Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Philippe Geluck a dit « Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être envie à plus de gens de travailler gratuitement. » Bonjour mes amis, bonjour, bonjour tout le monde. C'est assez incroyable hein, ce que le temps passe vite. Il y a déjà eu, croyez-le ou non, 100 émissions d'un livre découvert sur les ondes de Canal M. Et comme toutes les occasions sont bonnes pour fêter, eh bien, fêtons ! Aujourd'hui, tous les invités sont spéciaux à mon cœur, puisque tous ou presque sont non-voyants, ou partiellement ou totalement, et ils ont tous au moins deux points communs. D'abord, les livres audio, vous le savez, ils en mangent, et puis ensuite, ils sont accros à l'émission Un livre découvert. Alors, ils ont répondu à mon appel, je vous les présente tout de suite. Aujourd'hui, ils seront en direct ou par téléphone, Gérald Cousineau, Jeannine Vanier, qui est déjà dans le studio. Ça va bien, Jeannine?
Oui, ça va très bien, merci.
Parfait, nous aurons aussi Michel Langlois, Gérard Saint-Denis, Louise Boulanger, Jean Brière, Bernard Tremblay, peut-être, et Gaston Loubier. Oui, ce sont des noms que vous connaissez bien pour les entendre assez régulièrement à cette émission-là. Et puis, je finirai cette liste avec ceux qui vont ouvrir l'émission avec moi, c'est-à-dire les créateurs d'un livre découvert, Carmen Lepage et Michel Gélina. À tout seigneur, tout honneur, je ne pouvais pas faire cette émission sans que vous soyez là.
C'est le fun.
Oui, bonjour, Clotilde.
Vraiment, moi, je me disais quand même, vous en avez fait combien, 27, 28, là, vous
ouais,
deux
non,
oui,
ce
oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Et juste avant qu'on commence, je voudrais qu'on écoute ceci.
Et aujourd'hui, on a comme invité... Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Bonjour Luc Fortin.
Bonjour Michel, bonjour Carmen.
Bonjour Luc.
Tout de suite, j'ai envie de vous dire bonne chance.
Maud Cambronne,
c'est un bel ajout à la programmation de Vues et Voix que votre petit projet comme ça.
Oui, Luc, c'est gentil, mais je vous signale que les 15 secondes que vous venez de prendre, je vous les donne pas en cadeau à la fin.
C'est correct.
Merci.
Et je viens de vous piquer 24 secondes que je pourrais pas vous rendre à la fin.
Non, mais c'est un peu... Moi, je trouve ça sympathique parce que d'une part, ça nous remet dans l'esprit.
Oui.
Ça fait drôle à entendre, première chose. Puis deuxièmement, c'est un peu l'esprit dans lequel on voulait fonctionner. Hein, je veux dire,
oui.
On se prenait pas trop au sérieux. C'était sérieusement fait. Mais Fortin m'en a fait baver une couple de fois.
Mais surtout que Luc, ça a été vraiment un juge assez sévère dans le sens où on a préparé l'émission. Il faisait partie du comité. Et puis, lui, il défendait le droit ou le plaisir des non-voyants, en quelque sorte.
Oui.
Donc, c'était intéressant quand même de l'avoir. On ne pouvait pas partir de notre bulle là, et faire n'importe quoi.
Carmen, c'était votre première expérience à la radio?
Non, moi, j'avais fait quelques émissions avant. J'avais fait Kiosque Magazine. J'avais fait aussi la lecture des quotidiens avant que tu la fasses, Clotilde. Et puis, moi, comme j'ai fait une formation en littérature, on m'avait approchée. C'est l'ancien directeur Daniel Lafleur qui l'avait fait.
Ah, OK, d'accord.
Et puis, j'ai plongé, mais vraiment en ayant une peur bleue. Et puis, j'ai dit que j'étais pas pour animer ça tout seul. Et bravo, Clotilde, que tu le fasses. J'admire. Et je suis allée chercher Michel. Mmh. Je voulais avoir une voix masculine. Une des plus belles voix, finalement, n'est-ce pas?
Heureusement qu'on est à la radio, parce que là, je suis rouge quand même.
Alors, on a fait équipe. Mmh. Et puis, ça a été, je pense, une bonne équipe.
Oui, mais la seule chose que moi, je peux dire là-dedans, c'est que, d'abord, premièrement, tout ce que je dis, c'est la faute à Carmen. Hein? Je veux dire, quand c'est bon, c'est la faute à Carmen. Quand c'est mauvais, c'est la faute à Carmen.
Mais c'est la faute à Carmen
si je suis là, parce que c'est un fait qu'à un moment donné, il y a cette fille-là qui m'approche en disant « Ah, j'ai quelque chose à te soumettre. » J'ai fait « Ah, ouais. » Puis, je trouvais que le projet était valide parce que c'est extrêmement... D'abord, c'est un challenge.
Oui. Hein?
Et ensuite, parce qu'il y avait des gens autour de nous puis qu'on se donnait une certaine liberté et on se complète jusqu'à un certain point. Moi, je n'ai absolument, mais vraiment pas l'expertise de Carmen en littérature. Moi, je suis un amateur au premier sens du terme. Ouais. J'aime les livres. Par ailleurs, j'ai une expérience dans les médias. Ça, c'est clair.
Ah oui, excellent. Ça, c'était un atout.
Alors, donc, on se complétait là-dessus, tu vois. Ça nous a valu parfois des moments, parce que, bon, moi, je ne veux pas, à un moment donné, que ton expérience reporte sur toi. Mais jamais je n'aurais eu la compétence pour parler des livres ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça faisait un équilibre, un équilibre fun. Puis, avec tout ce qu'il peut y avoir comme problème de production en cours de route. Mais en général, ce sont d'excellents souvenirs. Mais ce qui reste, je pense, de ce qu'on voulait faire, ça n'a pas changé. Je pense que tu le continues, Clotilde. Mm-hmm. L'idée fondamentale restait de communiquer aux gens des titres de livres qui sont disponibles.
Oui. Et puis de les mettre au courant au fur et à mesure qu'ils arrivaient, parce qu'ils n'étaient comme pas au courant nécessairement. Et ça, c'est vraiment précieux dans la mesure où on pense vraiment au point de départ à ce projet pour les non-voyants et pour leur permettre d'avoir le plus de plaisir possible dans la lecture, finalement. Et je pense que ça a marché, ça.
Oui, absolument.
La grande commande qu'on se donnait, nous autres, c'est qu'on n'est pas... pas une émission éducative. C'était absolument pas ce qu'on voulait faire.
On ne fait pas la promo non plus d'aucun livre.
Non, on s'amusait tout en communiquant une information en disant, ben, vous savez qu'il y a tel livre, et en même temps de donner des petites informations qui vont faire qu'on ne te donne pas juste le titre d'un livre, mais on parlait des gens, et surtout qu'on tentait, je pense, de faire passer un bon moment à ces gens-là en leur communiquant une information.
Oui,
et on a eu du fun.
J'imagine que vous avez dû avoir quelques bons fous rires, non? Vous devez avoir quelques belles anecdotes.
Vous vous en comptez un?
Oui.
Ah, écoute, à un moment donné, parce que bon, il faut dire que je surveillais Carmen parce qu'elle ne savait jamais à quoi s'attendre avec moi. Et à un moment donné, je me suis étouffé, mais en onde. Et là, j'ai vu Carmen devenir mais complètement rouge. Puis j'ai simplement continué comme si de rien n'était en disant, excusez-moi, je me suis étouffé, on recommence.
Ben oui.
Alors que ça faisait ce genre de situation, des fois, un petit peu spéciale. Mais c'est le plaisir de faire ce genre d'émission non-stop, en fait.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des invités, Carmen? Ils sont prévus, ils devraient être là. Pouf, ils ne sont pas là. On fait quoi?
Ah, mon Dieu, Seigneur! Moi, c'est drôle, hein, parce que tu nous demandais des souvenirs et j'étais comme amnésique, finalement. C'était être un peu Alzheimer au début, là.
C'est correct, mais... ça fait partie de ton charme.
Oui, OK, merci. Alors, toujours est-il que... Mais moi, je vais te dire, quand j'ai pensé à des invités, j'ai pensé à un invité qui était un bonbon. Excuse-moi que te dire, parce que je détourne un peu ta question. Mais
non, c'est pas grave.
Un invité, mais qui m'a vraiment charmée complètement... d'ailleurs, je suis en amour avec lui depuis, c'est Michel Tremblay comme invité.
Ah, oui.
Et je pense que c'est assez courant. Il va à toutes les émissions. Tout le monde l'aime, mais on rêve d'avoir 10-100 invités comme ça. Simple. Et même que son téléphone a sonné. Je ne sais pas si tu te souviens.
Non, c'était pas Michel, ça.
C'est pas Michel?
Non, il y a juste le Bigot qui peut te faire ça.
Ah, c'est le Bigot.
Bigot, ça, c'est une belle surprise aussi. On est en train de faire l'ouverture de l'émission, puis le téléphone sonne, puis c'est le téléphone de le Bigot. Je voulais le massacrer. Mais ça faisait partie du charme de la chose. Mais c'est parce que moi, je tiens à le dire avant de finir, Clotilde, pour les auditeurs, vous ne pouvez pas vous imaginer le travail qu'il y a derrière.
Ah oui,
ça semble facile comme ça. Non, parce que la question de Clotilde le soulève, ça. La panique totale quand un invité n'arrive pas, ou le contenu que tu as préparé, ou des changements de dernière minute. Alors moi, j'ai du respect énorme pour les gens qui le font, bénévolement. Et deuxièmement, il y a une machine immense derrière ça, qui ne paraît pas. C'est un peu comme l'athlète. Hein? Ça a l'air élégant, ça a l'air le fun, mais le travail qu'il y a derrière, chapeau, Clotilde.
Ben, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, Michel. Mais comme je le disais, je suis quand même rentrée dans des pantoufles qui étaient déjà bien confortables.
On a bien tricoté ça.
C'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, je l'avais dit, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs aménagements, parce qu'on a tous une personnalité, mais moi, je rentre déjà dans un canevas qui existe et que finalement, je n'ai pas transformé tant que ça, si ce n'est qu'on a plus de temps maintenant qu'à l'époque. Mais... Alors, Carmen Lepage, Michel Gélinas, vous qui avez créé Un Livre Découvert, je vous remercie tellement d'être venu aujourd'hui pour célébrer cette centième émission. Je vous demande de rester avec nous parce qu'après, on va prendre un petit verre tous ensemble. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre travail et votre présence.
Grand plaisir et 250 de plus.
Merci. Gérald, cher Gérald Cousineau, vous êtes là avec nous.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va?
Oui, hein. Donc, la grippe m'a un peu amoché, mais quand même.
Oh, mon Dieu, que ça s'entend, Gérald. Et merci d'avoir accepté. Puis ne vous en faites pas. C'est vrai que Gérald avait dit oui, je serai là. Mais on a tous bien compris que, malheureusement, avec ce méchant virus là qui vous a agrippé, c'est le cas de le dire.
Mais je vous promets d'être là pour la millième.
Merci. Vous savez que Denise Bombardier, parce que ce n'est pas un secret, là, nous avons enregistré déjà l'émission avec Denise. Elle est complètement tombée en amour avec votre voix.
Ah bon?
Gérard, pour cette centième... Gérald, pardon, excusez-moi. En plus, je l'ai dit trois fois, c'est vraiment parfait. Gérald, pour cette centième, j'ai demandé à toutes les personnes qui ont participé régulièrement à cette émission, je vous ai posé la même question à toutes et à tous. S'il ne devait y avoir qu'un bouquin, si j'étais encore en France, je vous dirais THE bouquin, celui qui vous a le plus marqué depuis que vous utilisez les livres audio adaptés, ce serait lequel et pourquoi?
Aïe, 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 cette question, Clotilde, elle m'a plongé dans l'embarras, elle m'a causé des nuits et des nuits d'insomnie. je ne suis pas arrivé à trouver le livre qui m'a le plus marqué. Alors, j'ai pensé à des livres qui m'ont beaucoup marqué. Bon, j'en ai écouté des milliers. Il y en a plusieurs que j'ai complètement oubliés, mais il en reste quelques-uns. Et alors, j'essaie d'en choisir un. Il n'est peut-être pas très connu. C'est un roman d'un écrivain irlandais qui s'appelle Gerard Donovan. Mm-hmm. Le roman s'appelle Julius Winsome. Je ne sais pas si les gens avec vous le connaissent.
Je le connais très bien, Gérard. C'est moi qui l'ai lu.
Ah bon?
C'est fou! C'est génial!
C'est magnifique comme roman.
Oh, wow! Alors, de quoi s'agit-il, Gérald, alors?
Julius Winsome, c'est un monsieur qui vit solitaire dans un chalet de la forêt du Maine, tout près du Nouveau-Brunswick. Il vit là avec son chien, qu'il a appelé Hobbes, du nom du philosophe anglais. Et je pense que c'est à Hobbes qu'on doit l'adage « L'homme est un loup pour l'homme ». Et le roman va prouver que l'adage est toujours vrai, malheureusement. Alors, cet homme-là vit donc avec son chien Hobbes et avec ses 3282 livres que lui a légué son père. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans ses romans, il va parler des romans froids ou des romans chauds, selon qu'ils sont loin ou proches du poêle. Là, les livres froids, les livres chauds. Donc, ça commence en hiver, et là, bien sûr, l'auteur nous décrit le paysage un peu âpre, mais en même temps, envoûtant, littéralement envoûtant. Malheureusement, un jour, son chien est abattu par un chasseur, et là, notre monsieur, notre érudit, qui passait ses jours d'hiver assis dans son fauteuil à lire des livres, eh bien, il va se transformer en tueur, exactement, en machine à tuer, incroyable mais vrai, et il va traquer les chasseurs qu'il croit responsables de la mort de son chien. Il va les traquer en employant un vocabulaire shakespearien.
Oui.
Et là, les chasseurs n'y comprennent que dalle, mais de toute façon, tant pis pour eux, ils en meurent. Mais
oh là là.
Ça a l'air simpliste comme ça.
Il en tue,
mais
vous
c'est
dites.
Un roman absolument fascinant. Fascinant.
Une édition extraordinaire.
Oui, et ce qui est bien aussi, c'est que l'auteur expose les faits. Il n'essaie pas d'expliquer la conduite absolument incroyable de Julius. Non, voilà ce qui se passe. Mais on sent quand même une certaine empathie pour ce monsieur qui est un brin misanthrope. Mais encore une fois, voilà, ça se passe comme ça. Et si on accepte le point de départ, eh bien, on est plongé dans un univers absolument et fascinant. Et tantôt, j'ai appris le verbe envoûtant, mais moi, ce livre-là, je l'ai écouté 3 ou 4 fois et il m'envoûte encore.
Alors, on va redonner le titre parce que c'est certain que, de toute façon, je vais aussi me le procurer. Le titre et l'auteur, s'il vous plaît.
Donc, l'auteur, c'est Gerard Donovan.
Oui.
C'est son premier roman traduit en français. C'est un auteur irlandais qui, je pense, actuellement vit aux États-Unis. Donc, le roman s'appelle Julius Winsome, W-I-N-S-O-M-E. Et croyez-moi, ça vaut le détour.
D'accord. OK. Oh, ben Gérald, formidable. Alors, c'est noté. J'imagine qu'on va prendre en note pas mal de titres aujourd'hui qu'on va avoir. Non, mais c'est vrai. Et en plus, je suis très heureuse que le hasard fasse que ce soit Michel Gélinas qui l'ait lu. Parce que ça, j'ai oublié de le préciser tantôt. C'est que Michel et Carmen ne sont pas seulement ceux qui ont créé l'émission, mais ils ont été, ils sont encore bénévoles, lecteurs,
définitivement,
régulièrement ici chez Vues et Voix. Gérald Cousineau, on se revoit bientôt pour la 101e, la 102e.
Oui, bien sûr, en juin.
En juin. Et...
Je voulais juste dire, avant de vous quitter, oui. Merci à Michel, parce qu'effectivement, sa voix aide au plaisir qu'on a à écouter ce livre.
Ben, écoutez, je suis d'accord avec vous, Gérald. Moi, c'est un des très beaux livres que j'ai lu, et c'était une découverte extraordinaire, autant comme écriture que comme auteur.
Ah, bon, ben, voilà qui ensoleille ma journée.
Merci, Gérald. Prenez soin de vous, soignez-vous bien. On compte sur vous pour une prochaine émission. Au plaisir, au revoir.
À la prochaine.
Madame Vanier. Bonjour, Madame Vanier, Janine.
Bonjour.
Notre plus fidèle auditrice. Je le pense, hein, c'est pas de la flagornerie, c'est vrai. Madame Vanier est vraiment quelqu'un qui est branchée sur Canal M. Elle connaît tous les animateurs, elle connaît toutes les émissions. Vous lisez aussi beaucoup, vous écoutez énormément de livres, Madame Vanier.
Je me nourris d'audio et de braille. je lis plusieurs livres, oui.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous en lisiez? Parce que souvent, nous, on fait ça, là, quand on est voyant, on a toujours plusieurs livres. Moi, j'en lis à peu près 3 ou 4 fois en même temps. Est-ce qu'on fait ça quand on est non-voyant? Est-ce qu'on en écoute?
Non, je n'ai jamais fait ça. J'en fais un à la fois.
Un à la fois. Oui. Et si je vous pose, parce que je vais vous poser cette question-là, comme à tous ceux qui participent aujourd'hui à l'émission, Madame Vanier, quel est le livre qui vous a le plus marqué jusqu'à présent?
Il y en a plusieurs, mais certains même qui m'ont bouleversée.
Oui.
Alors, j'ai choisi de vous parler de L'Eldorado de Laurent Godet.
Oh, merci. Merci. Madame, écoutez, j'en suis émue. J'en ai les larmes aux yeux parce que je me suis dit, si on me posait la question, c'est le livre que je nommerais.
Ah oui.
Merci. Je vous laisse nous dire pourquoi.
Bon, évidemment, quand j'ai lu le livre... Je croyais que ce qui s'est passé là, ça ne se faisait plus. Mais malheureusement, c'est à la nouvelle de ce temps-ci. On entend beaucoup parler.
C'est tristement d'actualité.
Oui, oui. Alors, surtout, le personnage principal dans ce livre, c'est un capitaine qui recueillait tous ces passagers.
Oui, parce qu'on parle de migrants, c'est ça,
oui.
Hein, de clandestins.
Oui. Alors, ces gens-là avaient été amenés sur un bateau avec l'équipage et tout ça. Ils avaient payé
une fortune.
Probablement presque tout ce qu'ils avaient.
Oui.
Et alors, ça allait bien au début. Ils étaient heureux, tout ça. Et puis, un matin, ils se sont réveillés. Ils se sont rendus compte que durant la nuit, l'équipage avait déserté le bateau, avait tout emporté. Et ils se retrouvaient tout seuls... à la dérive.
C'est vraiment d'actualité.
Hein? Ah oui. Et ça se passe à Lampedusa. Hein?
Oui, ça
se passe au large de Lampedusa, qui est... Voilà.
Wow.
Alors, évidemment, la traversée a été longue. Et je ne me souviens pas de tout, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont décédées dans la traversée.
Oui.
Et puis, ils sont arrivés finalement... où le capitaine devait les recueillir. Maintenant, il les recueillait, il les embarquait dans son embarcation.
Mm-hmm.
Puis, il en prenait soin, mais il devait les livrer ensuite aux autorités. Et puis, il n'était pas plus avancé qu'avant.
Ouais.
Le rêve ne se réalisait pas, c'est sûr.
Mm. Mais... L'Eldorado, c'était plus ça. Là. C'était la prison, puis le retour à leur pays.
Oui. Mm.
Cela dit, est-ce que, apparemment, on l'a tous lu, Michel?
Non, moi, je l'ai pas lu, non.
Carmen, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que j'ai apprécié dans ce livre-là, au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance de ces gens-là, au-delà du drame, c'est qu'il y a une humanité, un humanisme extraordinaire, et aussi, ce qui est fou, beaucoup de poésie.
Oui, et c'est l'itinéraire du capitaine qui finalement se met, on ne le dira pas parce qu'il faut, préserver. Mais le capitaine, hein, le voyage que le capitaine va faire pour comprendre ces gens-là à un moment donné. Souvenez-vous?
Oh, oui. Il a fait...
On ne le dit pas trop.
D'accord. Je ne sais pas si je peux le signaler sans trop...
Dévoiler. Il
y a un passage que j'ai trouvé important, c'est cette femme parmi les passagers qui l'a recueillie, qui l'avait suppliée de ne pas la livrée. Puis elle est revenue, en tout cas, elle s'est présentée à lui, puis elle lui a dit, elle lui a apporté un revolver, en tout cas, parce qu'elle voulait se venger de celui qui les avait mis comme ça sur le bateau, qui les avait
abandonnés. Et abandonnés.
Et ça a été pour lui quelque chose de très troublant. Il a lutté longtemps avant de consentir. Et il n'était pas sûr, évidemment, d'avoir fait une bonne chose. Mais finalement, c'est pas elle, je pense, qui a...
Non,
si je me souviens bien, c'est pas elle qui...
Non, c'est ça. Là, effectivement, oui.
On va arrêter.
Vous m'avez donné envie de le lire, vous, là, la nouvelle.
Oh, non, mais Eldorado, madame, je voudrais être sûre, il me semble que c'est par l'INCA qu'on peut le trouver, ce livre-là. C'est par l'INCA, je ne suis pas sûre.
Je ne sais pas.
Je ne me souviens plus, mais il me semble que j'avais vérifié par le SQLA. Je ne suis pas sûre qu'il était au catalogue, donc, mais c'est peut-être par l'INCA. Est-ce que vous en prenez aussi, est-ce que vous vous baladez sur les deux bibliothèques?
C'est-à-dire que je fais toujours des commandes à la grande bibliothèque, mais je ne sais jamais si c'est toujours de Vusevois ou de l'INCA.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Effectivement. Madame Vanier, est-ce que c'est très indiscret de vous demander votre âge?
85.
Wow! 85 ans. Et Madame Vanier, vous venez encore, vous-même, parfois bénévolement, pour marquer des disques, notamment pour Luc Fortin, braille, pour que Luc puisse choisir ses disques pour ses émissions.
Est-ce qu'il a encore le temps de le faire?
Oui, il a encore le temps de le faire.
Avec tout ce qu'il fait.
Oui. Il a encore le temps. D'ailleurs, on le salue,
c'est
Luc.
C'est une super vedette, maintenant.
Luc... Oh là là, si j'osais faire de l'humour, je dirais qu'il ne regarde même plus. Mais, mais comme je sais que vous avez tous beaucoup d'humour, c'est pour ça qu'on peut se le permettre. Madame Vanier, très rapidement, on va vous retrouver parce que vous allez participer à la prochaine émission. Vous allez nous parler d'un livre, ne me dites pas encore duquel. Vous avez encore un petit peu de temps pour y penser. Et donc, on pourra vous retrouver à l'émission « À livre découvert », la numéro 101. Je devrais dire 101. Avec grand plaisir, ce sera donc Jeanine Vanier. Merci d'être venue jusqu'à nous, Madame Vanier.
Ça me fait plaisir.
Un autre habitué de cette émission qui était bien malheureux parce qu'il y a eu un problème de transport, il ne pouvait pas être avec nous, c'est Michel Langlois. Bonjour Michel.
Allô Clotilde.
Comment ça va?
Ça va super bien.
Bon, ça va super bien. Michel, c'est la 100e de l'émission. Vous en avez fait quelques-unes avec nous, au moins 3 ou 4, je pense, et c'est pas fini parce que dans les 100 autres, dans celles qui suivent, là, j'imagine qu'on aura beaucoup l'occasion de vous avoir à cette émission. Vous êtes venu aussi donner une conférence ici chez Vusevois. Hein. Vous avez rencontré des bénévoles pour leur dire ce que ça représentait pour vous que la lecture, que les livres audio adaptés. C'est vrai, ça, hein? Vous avez fait ça?
Oui.
Est-ce que ça a été une belle expérience?
Ah oui, j'ai beaucoup adoré, mais les gens qui étaient là aussi, ils ont beaucoup aimé.
Et on se parlait tantôt avec Carmen et Michel, là, des gens qui ne se présentaient pas, et ce jour-là, l'abonné que je devais avoir s'était fait piquer par une abeille, et donc il n'avait pas pu participer à mon émission, et qui je vois sortir de la conférence? Michel Langlois. Et hop, je vous ai mis le grappin dessus. Vous vous souvenez de ça, Michel?
Ah oui, je me suis fait accrocher par tout un hameçon.
J'aime ça me faire traiter d'hameçon.
Vous avez sauvé la vie de quelqu'un.
J'étais au seuil de la douleur.
De piqûres d'abeilles à hameçon. À piqûres d'hameçon.
Et alors, la question que je pose à tout le monde, Michel Langlois, depuis que vous utilisez les livres audio adaptés, quel est le livre qui va rester gravé en votre mémoire pour longtemps?
Ça s'appelle « Les chiens de guerre ». De Frédéric Forsyth.
OK.
J'ai lu ça il y a à peu près 35 ans.
Oh!
Et je peux vous donner par cœur les noms des principaux personnages. J'ai pas été capable de l'oublier. Et ce livre a été... J'ai choisi ce livre-là. J'aurais pu prendre le réseau Corneille. J'aurais pu prendre les filles qui étaient perdues dans la jungle. Là. Mm-hmm. Plein de livres qui m'ont marqué. Mais là, Les chiens de guerre, c'est celui qui m'a accroché à la lecture.
Alors...
Avant, je lisais, parce que je recevais par la poste, sous cassette, Reader Digest puis Actualité. Mm-hmm. J'en lisais un petit peu. Mais, et puis, à un moment donné, quelqu'un m'avait fortement suggéré de lire L'Alternative du Diable de Frédéric Forsyth.
OK.
Et à l'époque, les livres n'étaient pas sous Internet.
Non.
Et puis, quand il y avait les trois ou quatre copies disponibles et étaient occupés, ils nous donnaient quelque chose qui ressemblait, soit du même auteur ou soit du même genre de livre.
Mais c'était comment? C'était un ruban? C'était quoi comme support?
Des cassettes.
Ouais. OK.
Puis, L'Alternative du Diable de Frédéric Forsyth était occupée. Mm-hmm. Et puis, ils m'ont expédié Les Chiens de guerre du même auteur.
OK. Et qui se passe à quelle époque? Oui, excusez-moi de vous avoir interrompu, parce que vous savez comment le temps passe vite à la radio. Il nous reste à peu près un petit deux minutes ensemble.
Oui.
Ça se passe où et quand?
J'étais frustré du coup, là, mais j'étais bien content après.
Ah ben oui.
Parce que l'histoire, c'est une compagnie minière anglaise qui veulent exploiter des gisements de manganèse dans un petit pays d'Afrique. Et ils engagent 5 mercenaires pour fomenter un coup d'État.
OK.
5, pas 50, pas 500. Mm-hmm. 5 mercenaires qui vont peut-être ou pas, on ne sait pas, réussir un coup d'État dans le pays d'Afrique où la compagnie minière veut mettre son fantoche.
Les fameux chiens de guerre.
C'est ça, les fameux chiens de guerre. Il y a Kat Shannon qui est le chef. Il y a Johnny Dupree qui vient d'Afrique du Sud, qui est l'expert des canons portatifs. Il y a Marc Flamin qui est l'expert des explosifs. Il y a Jean-Baptiste Langarotti qui est un Corse expert des armes blanches. Lui, il tue les sentinelles, puis ça fait pas de bruit. Il y a...
Oh là là!
Mais tabarnouche, Michel, vous vous en souvenez après 35 ans?
Méchant moineau!
Non, mais vous vous en souvenez? Vous vous souvenez des noms par cœur, tout?
Ben oui, la compagnie s'appelait Mancom. Le propriétaire, c'était M. Manson.
Incroyable.
Elle s'appelait Julie. Puis Kat Shannon, le chef des mercenaires, il a couché avec Julie. Puis,
voilà. Il a couché avec Julie!
Ça, par exemple, là, vous en souvenez aussi, hein?
Le président de la mine n'a pas beaucoup aimé ça, mais il ne pouvait pas dévoiler que c'était lui qui avait engagé l'autre.
Mais non, je comprends, je comprends. Michel, merci beaucoup pour cette suggestion et pour ce livre, Les Chiens de guerre. Dites-moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, vous reveniez à l'émission et que vous nous en parliez un peu plus longuement, parce que je pense que ça vaudrait le coup. Je ne sais pas, il faudrait que je vous laisse un genre de 30 minutes pour nous en parler.
Ça me fait plaisir.
Merci, Michel. Michel Langlois.
Je salue tout le monde qui est avec vous. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir être présent.
Au revoir, Michel. Ne vous inquiétez pas. Et merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que c'est Clotilde Seille et ses invités. Nous sommes en ce moment en train de célébrer. Je suis très, très bien entourée par du beau monde, avec des gens qui ont vraiment grand cœur et qui, parfois, ils sont pas là, ils participent par téléphone, mais on passe un très, très heureux moment pour célébrer cette 100e émission d'Un livre découvert. Ne bougez pas, on vous revient tout de suite après ces quelques petits messages. Mais oui, c'est la fête. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas l'indicatif que vous avez l'habitude d'entendre à cette émission Un livre découvert qui célèbre aujourd'hui sa 100e. Ça fait 100 émissions depuis que l'émission a été créée par Michel Gélina et Carmen Lepage, que je recevais un petit peu plus tôt. Et cette émission qui se poursuit, j'ai autour de moi 4 personnes qui participent activement et souvent à cette émission en tant qu'usagers, en tant qu'abonnés. Et c'est les livres audio, ils en mangent, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, j'ai autour de moi Gérard Saint-Denis, Gaston Loubier, Louise Boulanger et Bernard Tremblay. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est avec Gérard Saint-Denis que je vais commencer. Gérard, je suis tellement contente de vous voir, de vous toucher, de vous embrasser depuis le temps.
Je trouve que vous avez bon caractère, car j'ai complètement oublié de vous apporter mes premiers radis du jardin. J'espère d'être pardonné pour ça. Mais je vais vous parler des livres.
Oui.
Parce que.
Un livre important pour vous.
J'ai pas un livre. Je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, j'ai toujours aimé les romans policiers.
Oui. Okay?
Quand je voyais, je lisais beaucoup, beaucoup de romans policiers, mais j'avais remis à plus tard Agatha Christie.
Ah oui.
Et pour ma retraite. Et quand j'ai commencé ma retraite, malheureusement, j'ai perdu la vision très rapidement et je me suis retrouvé sans possibilité de lire du livre normalement, d'imprimé. Et j'ai opté pour lire Agatha Christie en livre audio. Et elle m'a comblé. Elle m'a permis d'être capable de continuer, mais elle m'a permis aussi de lire plus que je lisais avant. Je lis maintenant deux romans et demi par semaine. Quand je lis des romans, de livres, je devrais dire des livres, parce que souvent, c'est pas nécessairement des romans. Mm-hmm. Mais je lis deux livres et demi par semaine, parce que je suis un amateur de livres solaires. Je suis abonné à quelques bibliothèques, vous
le
savez.
Oui, donc vous avez eu la gentillesse et la générosité de nous parler, parce que c'est vrai que c'est important de savoir que s'il y a des livres qui ne sont pas disponibles via l'INCA ou via SQLA, il y a d'autres moyens.
Il y a d'autres moyens, et je suis toujours, avec tout le respect, puis en remerciant gros comme le bras, tous ces bénévoles qui font la lecture, qui nous aident à être capables, nous, d'entendre. Vous savez, ces gens-là prêtent leur voix et nous prêtons l'oreille. Et c'est ça qui fait la différence. Mais malgré ça, il y a aussi la synthèse vocale qui peut tout à coup pallier à des besoins immédiats. Ouais. Il y a des documents, il y a des livres qui doivent être apportés rapidement, qu'on doit lire rapidement si on veut être capable d'être dans l'actualité.
Je comprends.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les malvoyants ont un accès aussi rapide que les voyants grâce à la synthèse vocale. Mm-hmm. Mais, trompez-vous pas, il n'y a rien qui enlève un livre lu par une personne, par une voix humaine, avec la chaleur, avec ce qu'on met dedans, le cœur, avec l'intonation. Et ça restera toujours le gâteau sur la cerise, la cerise sur le gâteau qui est très important.
Oui.
Mais moi, je garde un excellent souvenir. C'était mes premiers balbutiements et c'était avec des cassettes, madame.
Ah oui.
Des cassettes qui, des fois, se brisaient, je me souviens de ça, et qu'on devait rebobiner pour être...
Avec un crayon, là, puis tout ça, c'est la cassette brisée.
Ah, voilà.
On n'était jamais sur le bon côté.
Ah, on n'était jamais sur le bon côté, vous dites?
C'est vrai, ça. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux et je pense que ça a permis à tellement de personnes d'être capable de continuer d'avoir une voix, d'avoir une vie active, d'être capable de s'intéresser à l'actualité, d'être capable de continuer à dialoguer avec la famille, avec d'autres membres de la famille, à l'occasion des fêtes, etc., de parler des choses qu'ils avaient lues, parce qu'il y a des gens qui avaient lu pour eux, puis les autres avaient entendu, avaient écouté avec plaisir. Moi, je les remercie, mon remerciement jamais assez. Et j'ai eu le plaisir de faire un voyage en France où j'ai appris quand même qu'il y avait des milliers de personnes qui font ça, ce travail-là de bénévole. Mmh. Et même si sont à distance, je les salue parce que c'est bien, bien important.
Ah, absolument, absolument. Vous êtes d'accord avec lui, Louise et Gaston, pour l'instant, qui avait des micros devant vous?
Pour ma part, absolument. Là, aujourd'hui, on a fait un tour des cabines ici d'enregistrement.
Oui. Vous avez aimé ça?
Ben, je reviens pas à quel point on se donne du mal pour rendre ça parfait. Mm-hmm. Moi, je suis renversé, puis je me disais un jour, je ferais ça. Jamais.
Non, c'est vrai qu'on a un souci. C'est vrai qu'ici, à Visez-Voix,
on a... Un souci de la perfection.
C'est ça. Ouais. Il y a un souci de perfection, hein.
Ah, Louise, aussi, c'est une visite que vous avez appréciée.
Oui,
Louise
j'ai bien
Boulanger.
Apprécié. J'avais déjà vu à Québec un peu ce qui se faisait à l'audiothèque, là. Mais ici, c'était la première fois que je voyais ce qui se faisait, là.
Ah oui, il y a du monde,
On voit qu'il y a beaucoup de travail, que c'est une ruche bourdonnante.
Absolument. Ici, ça n'arrête pas. Gérard Saint-Denis, merci beaucoup de vous être déplacé. Vous venez de Drummondville.
Oui.
Exprès pour nous aujourd'hui.
Je peux-tu finir en disant, à vous dire quelque chose qui n'est pas un livre?
Il nous reste combien de temps, mon ami? 30 secondes.
OK, allez, c'est pas long.
Parfait.
Je veux juste vous dire le livre qui m'a le plus impressionné dans ma vie.
Ah,
qui
n'est
pas
finalement.
Un livre sonore, malheureusement.
Bon.
Mais je vais vous le dire pareil, ça va peut-être rappeler des souvenirs aux plus âgés. C'est de Frank Fanon, Les damnés de la terre. C'est un des livres qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus marqué dans ma vie.
Ah oui.
Je me souviens de ça très bien.
Eh bien, il va falloir qu'on demande qu'ils soient enregistrés, ne serait-ce que pour que vous puissiez
le relire.
Voilà, exactement. C'était Gérard Saint-Denis sur les ondes de Canal M. On continue avec d'autres invités de célébrer les 100 ans. Les 100 ans, la centième de l'émission. J'étais sûre que je la ferais, celle-ci. Les 100 ans, il fallait tellement que je la fasse, celle-là. Louise Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Petite cachotière, vous qui êtes la tante de Martin Michaud et qui nous apprend ça en ondes à un moment donné, alors que Martin Michaud était mon invité.
Eh oui, je voulais pas avoir l'air de la patente groupie.
C'est bon. Ah, c'était, je ne sais pas si vous aviez écouté ça, mais cette journée-là, ouais, ça avait vraiment été très, très, très sympathique. Louise Boulanger, je vous ai, à vous comme aux autres, demandé quel était le livre qui va vous rester depuis que vous lisez. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes non-voyante et que vous utilisez...
Ben oui, moi, je suis une personne handicapée visuelle de naissance. Okay. Fait que ça fait presque 61 ans, fait que c'est pas une nouveauté dans mon corps.
Non, c'est ça. Alors, le livre.
Ben moi, c'est un livre que j'ai lu quand j'ai eu mon stream, mon petit lecteur. Un des premiers livres que j'ai lu, c'est le livre de Denis Lehane qui s'appelle « Un pays à l'aube ». Denis Lehane est un écrivain américain originaire de Boston qui fait normalement dans le roman policier et les thrillers.
Oui.
Mais cette fois-ci, dans Un pays à l'aube, on fait plus face, disons, à un roman qu'on pourrait qualifier de politico-historique. En fait, on se retrouve à Boston. Tous ses romans, lui, se déroulent à Boston, sa ville d'origine. On se retrouve dans le contexte suivant. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. En plus de ça, il y a eu, un an auparavant, il y a eu la Révolution russe. Et en plus de ça, en cette fin d'année 1978, oui. Tant qu'à être dans les gaffes, 1918, il y a aussi la grippe espagnole qui va faire oui. plus de 100 millions de morts, soit deux fois plus que les deux guerres ensemble. À ce moment-là, on se retrouve à Boston, comme je vous disais. Et puis, dans un contexte politique assez survolté, puisque à Boston, on retrouve, entre autres, des Noirs. C'est le début mm-hmm. du mouvement civique de revendication des Noirs aux États-Unis. Mm. Les Noirs, pendant la guerre, ont occupé des emplois qui étaient à l'origine aux Blancs, qui étaient partis à la guerre. Quand ils sont revenus, ils ont mis les Noirs dehors, comme ils ont fait avec les femmes après la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve à ce moment-là aussi beaucoup d'anarchistes. Il y a beaucoup d'immigrants à New York qui ont connu ce qui se passait dans les pays... pas à New York, mais à Boston, qui ont connu ce qui se passait dans les pays de l'Est. Bref, c'est tout un climat social où à Boston, il y a des groupes anarchistes qui distribuent des tracts, des bolcheviques. Il y a des bombes qui explosent. C'est tout un contexte social qui fait en sorte que... On se retrouve dans une grande marmite bouillonnante qui est sur un rond à puissance élevée.
Ouais.
Et là-dedans, dans ce grand bouillon-là, on va trouver trois personnages principaux. Un qui s'appelle Danny, qui est un policier d'origine irlandaise qui a pour charge d'infiltrer les groupes radicaux, mais il va devenir sympathique à ces gens-là. Il va devenir un des leaders de la grève des policiers de New York. Mm-hmm. Il y a un noir qui est son ami... Et on va retrouver aussi le joueur de baseball, Babe Ruth, qui est une grande vedette du baseball à cette époque-là, qui pourrait représenter une certaine aristocratie blanche et aisée, si mm-hmm. on pourrait dire. Là. Mm-hmm. Fait que dans notre roman, tous ces personnages-là, leurs destins vont se croiser. Et c'est ce qu'on va découvrir à l'intérieur du roman, qui se déroule vraiment dans la quotidienneté. La plus grande scène du roman est carrément au début du livre, parce que là, il y a une partie de baseball, parce que l'équipe de Babe Ruth tombe en panne, son train en plein milieu d'un champ, il débarque oui. du train, et là, il rencontre un groupe de Noirs, puis ils se mettent à jouer au baseball avec.
Oh, wow.
Mais là, quand les Noirs se sont mis à mener, les Blancs se sont mis à tricher. Oh. Et les Noirs se sont sentis obligés de les laisser gagner.
C'est important, mais je comprends.
C'est un peu à l'image ouais, de tout ce qui se déroule exactement. Dans la société américaine ouais. où, Babe Ruth et son groupe représentent un peu les dominants et les Noirs, les dominés, qui sont en fin de compte toujours les perdants ouais. et que souvent on voit que les Blancs sont ceux qui trichent le plus le système. C'est un livre...
Oui, important à ce niveau-là. Ben, surtout quand on a vu il y a un mois et demi à Baltimore et dans tous Ferguson. Ces coins-là. Ben, et puis à Ferguson aussi.
Ben, c'est
tout
ça,
ce qui
c'est
s'est
qu'on voit quand quelque part l'histoire
se répète
régulièrement. Mm. Là, les bouddhistes disent qu'on tourne en rond puis on repasse dans les mêmes places où on a passé.
Oui.
C'est vraiment l'impression que nous laisse ce livre-là. On a juste à penser à la crise financière de 2008. 2008, les mouvements comme Occupy, même si c'est dans un contexte différent, on voit qu'il y a quand même des choses qui nous reviennent. C'est un roman qui, en fin de compte, est peut-être plus un film qu'un roman, parce que de la manière que ça nous est décrit, c'est comme si on voit les images défiler devant nous, comme si on était dans un film. Ouais. S'il y en a qui pourraient un peu situer, Dionys Lane, c'est lui qui a fait ce qui est devenu un roman, qui est devenu un film par la suite, c'est Mystic River.
Oui, bien sûr.
Il est reconnu beaucoup pour ce livre-là.
Oui. Louise, c'est tellement passionnant, vraiment encore un livre qu'on a tous, hein, j'imagine, envie de découvrir. Vous en parlez fort bien, Louise. C'était vraiment très, très, très agréable. C'est Louise Boulanger que nous écoutions, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison en ce moment et qui découvrez avec nous la 100e émission Un livre découvert. Louise Boulanger, vous restez avec nous pour prendre un petit verre après?
Sans problème.
Merci d'être venue de...
Québec.
Elle est venue exprès à l'émission de Québec. Je vous remercie infiniment, Louis, ça me touche beaucoup. Il y a une autre personne de Québec qui devait se joindre à nous, que d'ailleurs Louise Boulanger connaît très bien, c'est Jean Brière. Jean Brière à qui l'on doit entre autres cette lettre merveilleuse qu'il avait écrite, composée, qu'il avait envoyée aux quotidiens principaux du Québec. Il l'avait d'ailleurs fait paraître une lettre pendant la semaine de l'Action bénévole où il vantait entre autres tout le travail qui est effectué ici chez Vues et Voix. Jean Brière n'a pas pu se joindre à nous. Il a un problème de dos, figurez-vous. Alors, c'est la seule raison pour laquelle vraiment il n'est pas là. Mais il nous a envoyé un message. Je vous propose de l'entendre. Jean Brière.
Salut à tous les artisans et les auditeurs du Canal M. Ici Jean Brière. C'est avec plaisir que je participe, même à distance, à la 100e de la captivante émission à livre découvert. Je vous présente sans tarder mon livre par excellence, « Le meilleur des mondes » de Aldous Huxley. Publié en 1932 au Royaume-Uni, 285 pages. C'est un roman d'anticipation, le classique du genre, selon moi. J'ai un souvenir très fort de ce roman que j'ai lu pour la première fois au cégep. Je l'ai lu en imprimé, car je voyais encore un peu à cette époque. Je me rappelle beaucoup de mon édition de poche que je possède toujours, où on voyait sur la jaquette un bébé aux cheveux déjà gris dans un pot de verre. Ça m'avait énormément frappé. Il est toujours disponible au SQLA. C'est une fiction basée sur la dystopie, c'est-à-dire une utopie qui peut virer au cauchemar suite à une idéologie gouvernementale néfaste. L'auteur a été inspiré pour son roman dans les années 20 suite aux inquiétudes en Europe face à la montée du totalitarisme dans le monde. L'histoire se déroule à Londres dans un avenir indéterminé. Un État mondial a remplacé les différents gouvernements suite à un conflit dévastateur. Il gère entièrement la vie de tous ses citoyens, sauf quelques populations sauvages confinées dans des réserves. Les humains, ils sont créés en éprouvette dans des laboratoires gouvernementaux. Les enfants sont conditionnés durant leur sommeil, leur destinée est donc prédéterminée. Le gouvernement crée ainsi 5 castes d'humains qui ont chacun leur utilité dans la société. Et pas d'envie, tout le monde est content grâce au conditionnement. L'objectif du système, c'est bien sûr de préserver la stabilité de cette société. La sexualité telle que nous la connaissons est reléguée au rang de simple loisir. La liberté individuelle est abolie. Les citoyens sont conditionnés à être de bons consommateurs pour faire rouler l'économie sociale planifiée. Le gouvernement s'occupe même de fournir le bonheur en pilule gratuitement à ses citoyens. Il s'agit du soma, une drogue sans effet secondaire, si ce n'est que de réduire l'espérance de vie des citoyens. Un homme instruit qui est un peu un paria dans sa société puisqu'il a des doutes sur l'organisation sociale, visite les régions sauvages. Il ramène un individu, qu'on appelle donc un sauvage, dans la civilisation, et cela provoque un choc culturel immense. Ça suscite une réflexion, puis une remise en question de la société, ce que, bien sûr, l'autorité ne peut tolérer et y met fin rapidement. Ce roman montre une société idéale qui organise et contrôle donc la vie de tous ses citoyens, leur fournit le bonheur au détriment de leur liberté. Il provoque, bien sûr, une réflexion sur notre société moderne. Et l'auteur ne s'en prive pas. Et quant à moi, bien, j'ai adoré ce roman, car je le cite encore spontanément dans bon nombre de discussions politiques ou sociologiques. Dernier argument, Le meilleur des mondes a été classé 21e sur 100 meilleurs livres du 20e siècle. Et je vous le recommande chaleureusement.
C'était la voix de Jean Brière que nous écoutions, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui et qui très gentiment nous a enregistré ce message de chez lui sur sa petite machine Victor. Mais oui, on peut en faire des choses là-dessus. C'est vraiment formidable. J'ai à ma gauche Bernard Tremblay. Bonjour Bernard.
Bonjour Clotilde.
Vous avez participé aussi deux ou trois fois déjà à cette émission en tant que lecteur, abonné. Vous nous parlez de livres vous-même. Donc vous êtes un passionné de livres. Vous en lisez beaucoup.
Après une carrière en bibliothèque publique,
ah oui?
Je persiste et je signe.
Oui. OK, un vrai, là. Oh là 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 là. Alors, des livres, vous en avez lu, donc regardez, on les comptera même pas. Et alors, quand on vous pose cette affreuse question qui tue, quel est le livre qui vous a le plus marqué et que vous allez retenir et pour longtemps, et qui spontanément vous vient à l'esprit quand vous devez parler d'un livre, c'est lequel?
Alors, c'est tout simple. C'est d'ailleurs un livre dont j'avais entendu beaucoup parler, qui s'est mérité plusieurs prix.
Oui.
Mais moi, c'est les thèmes qui sont abordés, qui m'ont touché beaucoup.
Oui.
J'ai fait de la photo pendant presque 40 ans de ma vie.
Okay.
Il m'arrive de tenter encore l'expérience. Il pleuvait des oiseaux, de Jocelyne Saussier.
Oui, très bon choix.
Avec une photographe qui, dans un projet, veut aller faire les portraits des personnes dans un grand âge pour aller révéler en même temps leur vie, les éléments marquants de leur vie. Et bien sûr, le grand feu qui a eu lieu dans les années 10, dans le 1910, pour préciser aujourd'hui, 1910, dans le Grand Nord de l'Ontario, où littéralement les oiseaux tombaient asphyxiés du ciel. Il pleuvait les oiseaux.
Parce que moi, honnêtement, je suis contente. Je ne l'ai pas lu, à ma grande honte, mais bon, comme on dit toujours, on ne peut pas tous les avoir lus, mais là, je suis contente que vous me le citiez parce que c'est quelqu'un que je voudrais inviter, peut-être cet automne, Madame Saussier. Donc, ça se passe à l'époque de ce grand feu-là?
Se passe aujourd'hui, mais la photographe veut aller rencontrer des gens qui étaient là.
OK, d'accord.
Et qui partagent tous un souvenir avec un même personnage. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle entend parler de Boychuk, un personnage qui était là, qui est probablement un héros, mais qui est très mystérieux, qui est disparu. Et on va découvrir qu'il est mort récemment, mais qu'il a laissé derrière lui une œuvre sur le feu, mais en peinture. Donc, la photographie et la peinture se rejoignent. Et on va se retrouver dans le nord de l'Ontario avec des personnes qui ont connu cet événement-là et qui vivent une fin de vie dans la liberté. La mort approche, mais ils se sont même donné la liberté de choisir le moment s'ils le veulent. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Mais en même temps, ils restent dans la vie. Le roman se termine et on est dans la vie, dans la paix, une certaine sérénité.
Ah, quel beau choix de livre. Je suis tellement contente, Bernard, que vous l'ayez évoqué, parce que ça, voilà, une invitée que j'avais un peu trop vite oubliée, Madame Saussier.
Bien, vous voyez, moi, je l'ai lu, mais là, je vous envie parce que c'est vous qui allez avoir le bonheur de le lire bientôt.
Ah oui, absolument, parce que ça comptait sur moi, c'est certain. Il va rejoindre la pile des quelques 72 bouquins qui sont sur ma table de nuit et dont il m'arrive de vous parler à l'occasion, éventuellement, dans cette émission-là, dont nous célébrons la centième, je vous le rappelle, avec entre autres Bernard Tremblay qui est venu se joindre à nous. Merci beaucoup, Bernard Tremblay.
De la profonde banlieue de Montréal.
Ah, de la profonde banlieue de Montréal et qui reviendra à l'occasion aussi. Merci beaucoup. On y va maintenant parce que le temps nous presse un peu et j'avais tellement hâte de vous parler. Gaston Loubier, Gaston, un grand admirateur aussi de Canal M et de l'émission et un grand admirateur de livres.
Tout
Gaston.
À fait, tout à fait.
Alors le livre qui vous
bonjour,
tient le plus à cœur. Bonjour Gaston, pardon, bonjour.
Non, bonjour. Oui, effectivement, c'est... Au départ, peut-être un peu méchant de nous demander ça, là, quel est le meilleur livre?
Je sais. Pas le meilleur.
J'ai ouvert
mon pas le meilleur. Pas le meilleur.
Celui qui vous a le plus... Exact. Celui qu'on a trouvé le meilleur, mais pas le meilleur. Mais lorsque j'ai consulté ma liste de livres, j'ai dit « Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. » Et je pense qu'on écoute nos impulsions. Le contenu du livre, s'il correspond à nos impulsions, on adore le livre. J'écoutais monsieur à côté ici, avec ses polars.
Gérard Saint-Denis.
Gérard Saint-Denis. Hey, moi, là, ça me dit rien, un polar. Et pourtant, tout le monde adore ça. Je me sens à part des autres. Il va falloir que je m'y mette. Mais moi, je dois dire, avant, je voyais. Moi, j'ai lu au moment où j'ai fait mon bac essor. Puis après, j'ai abouti dans le monde technique. Et là, mon boulot a pris tout mon temps. Je lisais très peu, pour pas dire à peine. Et là, je peux pas dire Dieu merci, mais quand j'ai perdu la vue, là, on ne peut plus rien faire d'autre que quoi? De lire, mais de lire, on lisait plus. Alors, on m'a mis en contact avec la médiathèque du temps.
C'est ça.
Et là, j'ai commencé, et depuis, je ne peux plus me passer de lecture.
Oui.
Là, je rattrape mes anciens auteurs de Camus, puis les autres, tu sais, puis ceux d'aujourd'hui. Alors, moi, c'était bien fantastique. Puis je dis, vous êtes à la centième émission. Moi, pour faire un jeu de mots, je dirais, sans vous, vous et moi, nos journées seraient très longues.
C'est très, très gentil, Gaston. Alors, le livre.
Oui, le livre.
Il vous reste un petit 2 minutes.
2 minutes.
C'est pas grave si on s'étend pas. Le principal, peut-être, c'est de nous
dire
lequel.
Mais c'est de donner le goût de la lecture
c'est ça.
Aussi. Hein, quand
ça.
On parle des livres, là, c'est un peu ça.
Oui, mais c'est juste ça.
Oui, moi, j'ai un petit grand défaut, c'est d'être près des livres québécois.
Oui.
Où là, je me retrouve au coin de telle rue,
bien sûr.
Ça. Mais je reviens sur celui dont je vous ai parlé la dernière fois, parce qu'il m'a un peu beaucoup transformé. C'est L'enfant de Noé.
Oui.
Parce que ce livre-là, c'est une très belle histoire, facile, intéressante, à lire, mais à la fin, on comprend le message philosophique.
Oui.
Comment c'est important de sauver ce qui existe autour de nous. Lui, il a pris le propos de Joseph, le petit juif, là, qu'on essaie d'exterminer à l'époque, et il se met à vouloir sauver.
Oui.
Et un peu plus tard, quand les dernières pages arrivent, on voit le message parce qu'il voit les Juifs et les Palestiniens, des jeunes enfants, se battre entre eux. Et il essaie, à ce moment-là, de les séparer, parce que lui part toujours des collections pour se souvenir de ce qui pourrait disparaître. Et là, il prend une kippa, un foulard palestinien, puis il dit, je commence une collection.
Ah.
Alors moi, à ça, j'ai frissonné, c'est touchant, et je me suis dit, c'est sur ça que j'avais laissé, je vais me faire une collection de livres français, je crains de perdre ma culture ici.
Ah oui, non, mais je comprends. Mais c'est je comprends ça. Tout à fait. Puis, non, je trouve ça très... Hein, je vois d'ailleurs Bernard Tremblay qui acquiesce, oui. Louise Boulanger aussi. Hein. Tout le monde est d'accord avec ça. Surtout qu'il y a dans la littérature québécoise des choses absolument extraordinaires.
Je dirais qu'à 75 ans, relire Bonheur d'occasion, c'est oui. pas voilà. comme à 28 ans.
Exactement. Exactement. Et oui, puis il faut relire nos livres. Oui. Parce que, je prends cet exemple. Là, ce n'est pas un livre québécois, là, pour dire que je... Je m'écarte de temps en temps, mais je l'ai relu pour pouvoir en reparler. Je l'ai redécouvert. Donc, on peut relire nos anciens classiques.
Alors, L'enfant de Noé, c'est d'Éric Emmanuel Schmitt, hein, c'est bien oui, ça. Voilà, donc, L'enfant voilà, de Noé voilà, est voilà. celui qui nous en parlait comme étant le livre peut-être oui, qui l'a marqué oui, le plus oui, et qui oui, l'a oui, transformé, d'après oui, ce que j'entends. Oui, c'était oui. Gaston Loubier. Mes amis, l'émission tire à sa fin. Alors, je voudrais avoir une pensée pour André Vincent et Michel Brûlé. André Vincent qui a pris sa retraite du SQLA. Merci mille fois, André. On aurait souhaité que vous soyez avec nous. Un merci et une pensée à tous les autres abonnés du SQLA qui ont peut-être parfois juste une fois ou plus collaboré eux aussi à cette émission. Je pense aux deux Suzanne, Suzanne Lalumière, Suzanne Vida, Gérald Miller, Luc Fortin qui n'ont pu se joindre à nous. Merci à tous les bénévoles qui viennent aussi enrichir cette émission et que dire des invités qui généreusement passent par ce studio. Aussi, un énorme merci à Louise Vien, la directrice de Canal M, pour la conscience qu'elle me fait, à toute l'équipe de Vues et Voix, un merci tout spécial à Jean-Sébastien qui m'épaule tellement bien techniquement et humainement dans cette émission et à Mathieu qui me fait toujours rire. Merci à vous tous qui me donnerez, je l'espère, l'envie de vous offrir une autre centaine de livres, d'un livre découvert. Et puis, merci de nous écouter. Merci de faire savoir que l'émission existe. Nous avons besoin de vous aussi. Parlez-en autour de vous. Je pense que c'est important. Et que diriez-vous qu'on poursuive la fête au bout avec... Pardon, j'en bafouille tellement je pense que j'ai hâte de boire un coup. Et excusez-la. Que diriez-vous donc qu'on poursuive la fête autour d'un bon verre? Merci mes amis, merci tout le monde. Merci à Michel Gélina, Carmen Lepage, Gérald Cousineau, Janine Vanier, Michel Langlois, Gérard Saint-Denis, Louise Boulanger, Bernard Tremblay, Jean Brière et Gaston Loubier. Merci Jean-Sébastien et Mathieu, merci.
Vive Vues et Voix.